beaucoup. Bonjour, chers amis, Jan Drebré et Nimietz. Je vais essayer effectivement de vous dire comment j'ai vécu en tant que vert depuis une vingtaine d'années la construction européenne et comment nous, les verts, avons été amenés à prendre la position qui a été la nôtre sur ce débat et, compte tenu de ce qu'a été le résultat du référendum, comment on peut essayer de rebondir. En gros, on peut dire que pendant les 20 premières années de la construction européenne, il n'y avait pas de problème. Tous les pays, séparément, suivaient un même modèle dans lequel l'État était responsable de la mise en harmonie de la croissance économique et du progrès social. Ça a commencé à vaciller tout au long des années 70, où de plus en plus le fait qu'il n'y ait pas un pouvoir politique commun à l'Europe mettait de fait les différents pays en concurrence les uns vis-à-vis des autres, avec le résultat d'éroder leur système social. Puis, quatre grands traités, le traité de l'acte unique, le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam et le traité de Nice, ont brutalement unifié l'espace économique et monétaire européen sans le doter simultanément d'un pouvoir de contrôle politique permettant aux citoyens de cet immense espace d'affirmer contre les lois du marché leurs exigences démocratiques, sociales et écologiques. Face à cette évolution, en général, le groupe vert au Parlement européen a été extrêmement critique sur ces quatre derniers traités, allant jusqu'à voter à l'unanimité contre le dernier traité, le traité de Nice. Sur le traité de Maastricht, nous étions à la fin d'une journée d'été, ici. Jacques Delors était intervenu, c'était pas ici, c'était à Saint-Nazaire. Jacques Delors était intervenu. On savait bien que l'acceptation ou non du traité de Maastricht allait dépendre crucialement de ce qu'allaient dire les Verts, puisque ça allait jouer 1 ou 2%. Et il nous avait dit, oui, c'est une erreur de faire l'Europe économique et monétaire sans faire simultanément l'Europe politique permettant d'avoir une Europe sociale et écologique, mais je vous demande de le voter, car je vous le garantis, nous avait-il dit à Saint-Nazaire, les peuples ne supporteront pas une telle Europe et vous aurez très vite une Europe politique. Il avait convaincu exactement la moitié des Verts. Comme toujours, ça se voit, ça s'est voté. À... Alors cette fois-ci, on est tombé exactement le même nombre de voix au CNIR. 45-45. Pour le oui et pour le non. Et depuis, évidemment, nous vivons dans le traité de Maastricht, aggravé Amsterdam, aggravé Nice, en attendant, comme Godot, l'émergence de ce traité qui allait enfin mettre un peu d'Europe politique sur cette Europe économique et monétaire. Alors est arrivé, pour la première fois, avec la convention qui s'est réunie après ce que nous avons unanimement considéré cette fois comme un échec, le traité de Nice, tous nos députés ont voté contre au niveau européen et au niveau national, est arrivée cette convention. La convention a travaillé. En revanche, on dira deux mots, nous avons assisté à une mobilisation très forte des partis de gauche en liaison avec les organisations sociales de niveau européen, lobby des femmes, Bureau européen de l'environnement, Confédération européenne des syndicats, à faire quelques avancées permettant davantage aux citoyens de contrôler les conséquences sociales, écologiques et démocratiques de cette intégration. En décembre 2003, 12 gouvernements sur 25, 12 gouvernements de droite se sont opposés au résultat de la Convention et nous avons poussé des hurlements. l'Espagne ayant changé de camp, comme vous le savez, au premier semestre de l'année suivante, on est arrivé avec, encore en érodant encore quelques-uns des résultats positifs de la Convention, un compromis, et là, il a fallu choisir. Le débat était très difficile chez nous. Nous savions très bien que s'il avait fallu simplement voter la variation par rapport au traité de Nice, il aurait été très facile de trouver un consensus pour dire oui, parce que c'était mieux que le traité de Nice. Mais la difficulté était qu'il fallait revoter non seulement la variation, mais la totalité. Ce qui changeait et ce qui ne changeait pas. Il fallait donc raisonner en termes non seulement de ce qui était gagné, mais en même temps de la sacralisation offerte par le terme « constitution » à ce qui était conservé. Le débat a été long chez les Verts, il a été bien organisé, et les Verts ont cette fois, contrairement à ce qui s'était passé à Saint-Nazaire, nettement dit « eh bien, nous prenons cet acquis ». C'était le résultat d'une négociation complexe, où le niveau européen était très investi. Je ne vous cache pas que si le groupe Vert, qui a eu à choisir le premier, puisqu'il avait à voter dans le cadre du Parlement européen, oui ou non au compromis, si ce groupe Vert a presque unanimement dit « on vote oui », nos habitudes de collaboration et de coélaboration avec les forces sociales de niveau européen, le Bureau européen de l'environnement, c'est-à-dire la coordination de tous les machins, Greenpeace, Amis de la Terre, etc., qui sont eux-mêmes des structures fédératives par rapport à leur base nationale. Donc c'était une fédération de fédérations. La CES, même chose, confédération de confédérations. Le lobby des femmes, même chose, confédération de confédérations, qui tous, unanimement, disaient « oui, il faut prendre ce progrès parce que ça ne va pas se renouveler avant longtemps », nous a largement poussé à dire « oui, on prend tout de suite ». Mais nous avons mené la bataille qui consistait à dire « on prend tout de suite, mais on prend des garanties sur l'avenir ». Comme vous le savez, un des acquis du nouveau traité était de donner un droit d'initiative constitutionnel, mais pas législatif, enfin, il n'améliorait pas le droit législatif, mais il donnait un droit d'initiative constitutionnelle au Parlement, et nous avons fait voter au Parlement européen, quand le Parlement a eu à voter, qu'il s'engageait dès le premier jour d'entrée en vigueur du nouveau traité, c'est-à-dire dès le 2 novembre de l'année 2006, qu'il s'engageait à proposer immédiatement le traité d'après, le traité qui enfin élargirait substantiellement les droits démocratiques et le contenu social et écologique du traité. Et ensuite, nous sommes partis à la bataille du référendum. Les batailles du référendum. Il y en a eu 4 jusqu'à présent. 2 qui ont dit oui, 2 qui ont dit non. Dans les 2 qui ont dit oui, massivement, la gauche, avec les Verts, s'est prononcée pour ce oui, la Vert, la droite, traînant des pieds, s'opposant, appelant prudemment à un oui du bout des lèvres, et en réalité à l'abstention, comme on a vu en Espagne, où le gouvernement Aznar, pendant, était de ceux qui avaient voté contre le traité en disant « Nice ou la mort ». 2 autres, la France et les Pays-Bas, ont voté contre avec une forte participation de la gauche et de l'électorat écologiste au vote contre. Je dois dire que je perçois personnellement ce nom sur le mode du tragique, c'est-à-dire au sens antique du terme, c'est-à-dire que les intentions de cette majorité qui réalise ce résultat est contredit par le résultat lui-même. Comme l'a bien expliqué ce matin le représentant du CSA, il y avait dans le nom à gauche, il a distingué le nom de gauche, il a dit que c'était un nom à gauche, mais pas un nom de gauche. Je crois que la formule est tout à fait brillante. C'était un nom de gens de gauche, je ne parle pas du nom de droite souverainiste qui existe aussi. c'était un non qui disait non à l'Europe actuelle au nom d'une autre Europe. Mais évidemment, voter non à un projet de changement aboutissait juridiquement à rester dans cette Europe contre laquelle, dans les intentions, on votait. C'est ça la tragédie dans laquelle on est. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut absolument sortir de ce piège dans lequel l'aspiration à une autre Europe fait que le résultat est, pour un certain temps, un temps qui sera certainement long, nous allons en rester au traité de Maastricht-Nice, contre lequel les gens, en fait, ont voté. Alors, comment faire ? Ce n'est évidemment possible que si nous arrivons à réconcilier le oui de gauche et le non de gauche, et dedans, donner le contenu le plus fort possible au oui écologiste et au non écologiste. On a bien vu dans le débat les raisons qui ont poussé à ce que cette unification ne se fasse pas pendant le vote lui-même, contrairement à ce qui s'est largement passé dans les deux autres pays qui, eux, ont voté oui derrière la gauche. Ces raisons sont que, en matière de contenu et non pas de procédure, en matière de contenu, ce qui est perçu, c'est que l'Europe détruit actuellement et détruit depuis des années l'État-providence, qui était un État-providence national. La difficulté de ce référendum, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation de trapéziste où à un certain moment il fallait lâcher le trapèze de l'État-providence national pour attraper le trapèze d'un espace politique-providence européen, supranational. Cette difficulté est énorme et elle se reposera demain. Elle se reposera demain. L'idée que la nation est le lieu dans lequel on peut se mettre d'accord pour accepter de voter des lois, même si on perd des élections. Parce qu'il vaut mieux voter des lois ensemble démocratiquement que de vivre la loi de la jungle. C'est une idée qui s'est construite au cours des siècles, depuis les révolutions anglaises, hollandaises et françaises du XVIIIe siècle. Que la nation soit le cadre où on peut se mettre d'accord pour continuer à vivre ensemble, cela, c'est notre acquis. Et nous ne pouvons pas du jour au lendemain dire aux gens « Bon, face à la globalisation économique, nous avons besoin d'un pouvoir politique transnational sans leur en faire, en quelque sorte, la démonstration que c'est possible avant même que cet État ou cet espace politique transnational soit mis en place. » C'est ça notre problème fondamental. Nous, les écologistes, nous le savons parce que nous sommes nés en disant il faut penser globalement et agir localement. Et nous avons même pensé de plus en plus, et en plus, il faut de plus en plus agir globalement. Le traité de Kyoto. Le traité de Kyoto, c'est un accord pour agir globalement. Nous avons besoin d'un espace transnational qui puisse dire à chaque fois pas bien compte tenu de ton devoir par rapport à l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une constitution européenne qui puisse dire à chaque sous-région de l'Europe, qu'elle soit nation ou ce qu'on appelle région, dans ton intérêt à toi, dans l'intérêt de tes enfants et dans l'intérêt de ton écosystème, tu dois obéir aux lois collectives de l'Europe. Que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière de lutte contre l'effet de serre, que ce soit en matière de défense de la biodiversité, comme Natura 2000, etc., etc. Nous avons, mais c'est, on l'a bien vu pendant tout le débat, une des choses qui faisait horreur à pas mal de partisans du non, c'était le fameux article 6 qui disait, dans son domaine de compétences, les lois, la loi européenne prévaut sur la loi nationale. Eh bien oui, en tant qu'écologiste, nous sommes prêts à dire l'exigence planétaire et pour le moment la loi européenne prévaut sur les exigences nationales. Alors, je proposerai, mais nous n'avons pas fini de réfléchir. J'ai pensé pendant tout l'été, je proposais deux choses. Premièrement, essayer de construire tout de suite des politiques progressistes transnationales, sans attendre le futur plan B dont tout le monde sait maintenant qu'il n'avait jamais existé que dans le fantasme de certains partisans du nom de gauche. De l'or. Il avait dit que ce sera très difficile à faire. Oui, je pense que ce ne sera pas possible, disons, avant... Bon, allez, meilleur scénario que je vois, un fort mouvement social imposant que les élections européennes de 2009 soient une assemblée constituante. Eh bien, ça nous mène à 2 ans de plus de négociations, plus 2 ans de ratification à 2013. Donc, on reste à Nice, Maastricht, jusqu'à 2013, au mieux. Et est-ce que le projet sera bon ? Je n'en sais rien. Mais au moins, avant cette date, battons-nous pour obtenir ensemble des politiques européennes qui montrent que l'Europe, c'est bon, que l'Europe, c'est beau, que l'Europe, c'est bien, que l'Europe, c'est notre protection face à la globalisation. Et puis, deuxièmement, je conclue pour donner tout de suite la parole à mon éminente camarade, collègue et présidente, par ailleurs, puisqu'elle est la présidente d'une de mes commissions, auxquelles je participe. Mettons-nous ensemble, oui de gauche et non de gauche, non pas pour nous engueuler, mais pour dire aux uns, il y avait des choses qui vous plaisaient dans la Constitution, marquons le noir sur blanc, nous ne reculerons pas sur ces acquis de ce qu'apportait le TCE par rapport à Nice. Aux autres, il y avait des choses qui vous paraissaient manquer absolument dans le TCE, mettons-les ensemble noir sur blanc en disant, nous voulons en plus ça, ça, ça et ça. Et tous ensemble, battons-nous pour que, quand le fameux plan B émergera de ses limbes, nous soyons tous ensemble à présenter ce qui nous a fait voter oui pour les uns et ce qui nous a manqué et qui nous a amené à voter non en ce qui concerne les autres.
Merci Alain. Donc effectivement, Père Vange-Bérès, qui a vécu les deux conventions et qui a l'originalité d'être une PS pour le nom, mais je crois qu'il est aussi une de celles qui a des propositions à faire pour dépasser ce oui ou ce